Bonsoir Charles Penquin.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct. Alors on va attaquer tout de suite dans le corps du texte. Moi, ce qui me saute aux yeux et puis à l'oreille, c'est l'aspect immédiat, tragicomique de vos textes. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet aspect tragicomique de vos textes ?
Oui, enfin ça dépend aussi des textes, plutôt tragique ou plutôt comique ou les deux. En fait, c'est avec dedans quoi. Ça a commencé, je dirais à peu près avec dedans, et puis par rapport aussi aux lectures que j'avais à l'époque quoi. J'étais revenu un peu, enfin mes premiers amours, c'était un peu Beckett, je dirais des auteurs comme ça. Où il y a toujours de l'humour, et puis moi je pense que le rire c'est vraiment nécessaire quoi dans l'écriture. C'est immanquable parce qu'à un moment donné, si vous voulez, quand j'écris une phrase et puis la seconde elle arrive et je ris de la phrase précédente quoi, c'est un peu ça on pourrait dire.
Alors d'autant plus que dedans c'est un texte de 85 pages sans paragraphe, donc cette notion de tragicomique, c'est ce qui va permettre peut-être au lecteur de continuer.
Ben, pour moi, c'était un. Dedans, c'était quand même un truc que j'ai eu du mal à digérer, quoi. Enfin, c'est parce que c'est un livre. C'est comme si on mettait tous les poèmes de sa vie dans une boîte, quoi. Et c'était un peu ça. Et en même temps, c'est une boîte, mais dedans, il y a un texte qui demande qu'à sortir, quoi. Parce que. C'est une ponctuation, c'est le point, mais beaucoup de choses ont été écrites en vers, donc il y a comme une respiration. Le point, c'est la respiration, en fait, la respiration du texte. Je voyais vraiment, pour moi, c'était physique, en fait, hein, je voyais des trucs, c'était des images comme ça, mentales, de la ponctuation, comme une respiration, quoi.
Parce que cette ponctuation, elle est très régulière et elle vient très rapidement. Enfin, les phrases sont généralement assez courtes dedans.
Ouais, elles sont assez courtes. Parfois, il y a des phrases plus longues, quoi. Il y a des passages avec les séries télé, la urgence, tout ça. Il y a des passages comme ça où parfois, c'est beaucoup plus long. Puis la phrase n'est pas normale non plus, quoi, en fait. Hein, il n'y a pas un truc normal de la phrase. Donc, c'est, effectivement, ça pose un problème de lecture au lecteur. Enfin, il éprouve quelque chose quoi, de physique. Mais en même temps, je ne sais pas si c'est par rapport au livre en général que j'ai écrit. Souvent, ça me surprend quand on me dit ça, je ne pourrais pas. Par exemple, Bibi, je ne pourrais pas. Et alors que en fait d'une phrase à l'autre, ça, on peut lire quoi, c'est simple. Enfin, je sais pas, c'est une sorte de limpidité. Enfin, il y a quelque chose d'assez qu'on peut suivre en continu comme ça et qui est simple.
Effectivement, vous utilisez une langue simple, presque une langue du quotidien, on pourrait dire, une langue banale, et ça va bien avec le propos que vous avez, parce que votre propos, c'est on pourrait presque dire que ce sont des textes en prise avec le quotidien, mais un quotidien qui est passé à la moulinette de la langue quand même, non ?
Oui.
Pourquoi vous travaillez sur cette notion de la banalité du quotidien ? Est-ce que c'est une notion qui vous... si je dis expression banalité du quotidien, est-ce que c'est quelque chose qui vous est étranger ou pas du tout ?
Ben, non, ça ne m'est pas étranger, mais... Par rapport à mon binôme, disons qu'il y a des différents. Bon, il y a Bibi, c'est plus un peu l'histoire, alors on va dire la banalité du quotidien du monde de l'enfance, quoi. Mais on pourrait s'y retrouver dedans, quoi. Enfin, beaucoup de gens pourraient s'y retrouver. Et mon binôme, c'est plus une histoire d'amour, alors, mais c'est traversé par un tas de choses. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la banalité du quotidien, c'est une vie au quotidien, comment ça marche, comment on fait pour penser dans le quotidien, qu'est-ce qui se passe, les paroles qui arrivent, les informations, la langue médiatique, tout ça qui traverse, les pensées, ça peut être philosophique ou les pensées, effectivement, les choses du quotidien, mais tout ça qui est emporté, en fait, qui est emporté par un rythme. Hein, donc, c'est pas... C'est le quotidien, mais c'est le quotidien, je dirais, de, de plein de gens, quoi, qui seraient dedans. Ce sera une polyphonie de quotidien, quoi, on va dire.
Est-ce que ça pourrait être le quotidien du vivant ?
Ben ouais, c'est du vivant, ouais, bien sûr, parce que si j'utilise, on va dire, on va parler de la technique du cut-up. Il y a cette technique-là, mais moi, ça m'est jamais arrivé de prendre dans les bouquins, par exemple. C'est toujours été une parole vivante, la parole des collègues qui me travaillaient vraiment, quoi, qui m'obsédaient. Comment les gens peuvent parler, quoi. Comment ça passe le désir dans les mots qu'ils choisissent. Et parfois, il y a des gens comme ça qui vous prennent à partie et qui ont un langage et qui sont dedans, quoi, en fait. Hein. Alors, ils peuvent dire des choses très graves aussi, hein. Mais il y a une sorte de désir qui passe là-dedans qui est vraiment étonnant, quoi. Ou alors la langue, par exemple, des médias, la voix, la parole, des paroles plates, quoi, parfois, ou des séries télé américaines, tout ça aussi, ça a pu m'intéresser parce qu'il y avait une sorte de débit comme ça, comme urgence, il y avait un gros débit de paroles, donc j'arrivais pas à prendre tous les mots et. Parce que ma femme regardait la série et moi pendant ce temps-là j'essayais d'écrire, je n'arrivais pas, donc j'ai pris les paroles et il manquait des mots, mais c'était intéressant pour la question du sens, quoi.
Mais c'est quelque chose que vous vous appropriez beaucoup, enfin, j'ai pas l'impression que vous utilisiez beaucoup le cut-up comme vous dites, quoi. C'est vrai que c'est...
Ben, j'utilise pas, de toute façon j'allume pas la télé pour écrire ou je vais pas voir des gens pour écrire, quoi, hein. Je cherche pas du tout ça, quoi, en fait, hein. C'est parce qu'à un moment donné, j'étais pris au piège par un truc, quoi, parce qu'on est dans le monde. Et puis pour moi, l'idée, c'était de revenir de revenir au lieu, quoi. Et comment revenir au lieu, c'est, pour moi, c'était par l'écrit. Hein, comment attraper la parole de ce qui a été prononcé, comment la saisir dans l'air, quoi, et se sentir bien dans le lieu. Donc c'était l'idée, enfin, c'était même pas une idée, quoi, c'était... Je me suis aperçu que de toute façon, je pouvais pas tenir dans certains endroits si je ne reprenais pas par l'écriture.
Pour revenir à cette idée de vivant et de langue, vous dites dans l'Ambiné, c'est ce texte paru en septembre 2006 aux éditions Dernier Télégramme, vous dites « J'improvise, je suis vivant, je m'improvise vivant ».
Oui, oui, oui.
Ça qualifie, oui, bien votre écriture. « J'improvise, je suis vivant, je m'improvise vivant ».
Ouais, je m'improvise vivant. Je m'improvise vivant et j'essaie. Enfin, parfois c'est. J'aimerais rendre compte d'une rage, en fait, d'une colère à un moment donné, si vous voulez, qui passe par la parole, qui passe par une énergie comme ça, qui serait une sorte de chant, en fait, de cri, entre le chant, le cri, et avec les mots et une sorte de colère, quoi. Enfin, si je dis ça, vivant, c'est ça pour moi. Vivant, c'est quand même se revenir, en fait. S'atteindre à nouveau, quoi, en fait. Se ressaisir, quoi. Par l'écriture, quoi. Par l'improvisation, hein. Parce que l'improvisation... Alors souvent, je fais des improvisations dictaphone, je fais des trucs avec caméra portable, etc. Et puis après, il y a la notion spectaculaire, quoi, spectacle, performance, où là, il faut faire devant des gens. Alors c'est ça toute la difficulté. La performance, en fait, c'est vachement intéressant parce que finalement, tout est faux. C'est-à-dire que les gens sont là comme spectateurs, donc ils ne sont pas dans leur vie de tous les jours. Si vous faisiez une performance devant eux, ils sont dans le train, vous passez à côté d'eux, vous faites la même performance, ils ne vont pas réagir du tout de la même façon. Là, ils sont attentifs, en public. Et vous devez faire comme si vous étiez dans un quotidien comme ça où les choses vous tombent dessus, sont en train de vous cerner et de vous empêcher de vivre, quoi. Hein, vous vivez une sorte d'empêchement, mais quand c'est dans ces lieux-là, c'est pas possible. C'est difficile de rendre compte de ça. Donc on perd 50% des moyens déjà quand on fait une performance. Alors il faut jouer avec ça. J'ai l'intérêt aussi en même temps.
Donc quand vous êtes en état de faire une performance, parce qu'on ne va pas parler de lecture pour vous qualifier, c'est une sorte d'improvisation sur votre état d'être vivant ?
Ben oui, c'est essayer de se tenir en état, quoi. Alors, parfois, je marche de long en large pendant 10 minutes avant ou quoi, pour essayer de maintenir quelque chose de quelque chose qui serait la vie normale, quoi, en fait, hein. Parce que dans la vie normale, on a... Enfin, si on pense un peu, etc. Quand on voyage, etc., on réfléchit, on écrit, enfin, on vit, quoi, en fait.
Alors, on peut vous voir en performance dans le livre « Je me jette », puisqu'il y a un DVD avec, un film, et puis il y a quatre bonus, et dans un des bonus, on a Michel le pêcheur et Charles le poète.
Oui.
Et alors, est-ce que vous pouvez parler un peu de comment ça s'est fait, ça ? Parce que, pour expliquer brièvement, on a Michel le pêcheur, qui est un pêcheur, on pourrait presque dire, genre, je ne sais pas si c'est en Bretagne ou pas, mais on dirait un pêcheur breton, corse, d'accord, mais quelqu'un d'un peu bourru, comme ça, et puis vous, à côté, et puis... Enfin, vous faites pas du tout pas le figure, quoi. Vous entamez un dialogue avec lui, c'est fabuleux. C'est très juste, au contraire, c'est très très juste. Et puis, à un moment donné, vous lisez votre texte et d'une manière. Et là, on sent qu'il vous regarde un peu. C'est quelque chose qu'il a jamais entendu, mais il y a une sorte d'accroche. C'est pas, vous employez des mots qui ne lui sont pas du tout étrangers. Et dans ce que vous dites, ça ne lui est pas du tout étranger. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette performance?
Ben, en fait, ça se passait à la paillote chez Francis, en Corse. Là. Vous voyez, paillote chez Francis, moi qui a été incendié. J'étais en train de la reconstruire. Et j'ai un ami qui m'a conduit là-bas, qui s'appelle Jean Torrigrosa, qui fait partie du groupe Dox, Akhenaton, quoi. Akhenaton, qui fait la revue Dox en Corse. Là. Et donc, il m'amène là-bas parce qu'il a sa maison juste au-dessus de la paillote. Et donc, on fait quelques performances sur la plage, dans la paillote en construction, etc. Puis après, il me dit, ben, on va aller boire quelque chose. Et puis on va rencontrer les amis pêcheurs, parce qu'il les connaît bien et tout ça. Et donc, on commence à discuter. Mais en fait, il a posé la caméra et tout de suite, on a commencé à discuter. En même temps, ce que je trouve drôle, moi, j'ai pas l'impression d'être là, en fait. Enfin, je suis là, en même temps, j'accompagne, j'écoute... Mais bon, c'était prévu, en fait, lui, il avait dit, Jean Torrigrosa, il va vous faire une lecture. Donc moi, j'attends pour faire la lecture, finalement. Et finalement, ça part dans les histoires de pêche, il y a des histoires, on ne comprend pas tout, mais ça parle aussi, parce que lui, il n'a pas un pêcheur à bord, je ne sais plus si c'est un maçon ou un boucher, parce qu'il y a des histoires de maçon et de boucher. Les maçons et des gens qu'on retrouve dans le béton, etc. Enfin, des histoires vraiment un peu étranges, c'est la Corse, quoi. Et puis, à un moment donné, je dis que je vais lire. Et là, effectivement, il a des réactions. Il est très présent, en fait, dans l'image.
Ah oui, il a une présence forte, oui.
Ouais, très forte. Et là, il réagit, en fait, en fonction des... Ben, c'est les intonations, c'est ce que je dis... Il s'attend pas à une lecture de poésie, enfin, il s'attend pas à ce que ce soit ça, la poésie aussi, quoi.
Tout à fait.
Je pense, et donc, c'est ça qui fait réagir, et il se demande si ça existe vraiment, est-ce que ça se vend, est-ce que ça peut se vendre, etc. Enfin, bref, c'est vraiment, c'est bien, parce qu'en fait, c'est un peu comme ça que je vois l'intervention quand même en public, quoi. Parfois ça existe. Alors ça a existé là, ça a été pris, quoi. C'est une performance parce que vraiment, c'est quand même ce serait un des buts, quoi, en fait, de la lecture de textes.
Parce que c'est
des gens qui ne sont pas dans la poésie mais qui réagissent, qui ont une réaction, qui disent quand même ça existe et c'est arrivé quelquefois ici à Lille. Il y a eu des lectures très très violentes parfois. J'étais à la rencontre de gens qui voulaient rien entendre et puis je tournais autour d'eux, c'était très violent. Et des gens qui étaient au milieu d'un dispositif culturel, ces gens-là étaient ignorés finalement de cette culture. Et donc il y a eu une accroche, quoi, à un moment donné.
Parce que avec ce pêcheur-là. C'est pas du tout une rencontre du troisième type. C'est une rencontre où j'ai l'impression quand même que les deux ont l'air à l'aise, où les deux s'apprécient. Et c'est là où je trouve que vis-à-vis de vos textes, de votre poésie, c'est vraiment une poésie du vivant, c'est une poésie pour tous. Et c'est une poésie qui n'exclut pas. Alors il y a cette phrase que vous écrivez, je sais plus où, j'en suis désolé, écrire contre les gestes artistiques qui ne disent plus rien de la vie, qui ont oublié l'inquiétude qui en est liée. Et effectivement, j'ai l'impression que que c'est ce que vous faites. Vous écrivez contre ces gestes artistiques qui ne disent plus rien de la vie et qui ont oublié l'inquiétude qui en est liée. Et que c'est pour ça que cette rencontre entre vous, poète contemporain, plutôt à tendance expérimentale, et ce pêcheur fonctionne et est oui. très touchante et complètement émouvante. Hein. Mm-hmm. Qu'en pensez-vous ?
Oui, je pense que... je pense que quand même dans la poésie, il y a pas mal de choses qui peuvent être vraiment bien perçues. On a des a priori, et puis c'est des a priori aussi de lecture. Par exemple, on parlait de livres sans alinéa, drôle de ponctuation, tout ça, mais parce qu'on nous a appris à lire d'une certaine manière, et très vite, on s'est fixé sur des modes de... Moi, je peux pas lire un roman, par exemple, je peux lire des phrases, ou alors je lirais des trucs, mais... comme Flaubert, mais Flaubert, il est allé vers la poésie, à un moment donné, enfin, il... Je pense que les écrivains, ils ont toujours travaillé comme ça et il suffit de les lire. C'est jamais facile, mais bon, en même temps, c'est aussi parce qu'on a tout un tas de codes en nous-mêmes. Et c'est très difficile, en fait. C'est surtout avec la parole. C'est délicat. Alors, la lecture haute voix, bah, ça permet aussi de voir que, finalement, ma façon de lire, c'est ma façon très personnelle, quoi. Quand je fais des lectures à des jeunes, parfois ils sont étonnés, en fait. Ils sont très étonnés de lire parce que comment on entend les gens parler, en fait. Comment on entend les gens parler, ne serait-ce qu'à la télévision, c'est impensable de parler comme ça, en fait. Donc tu tout, quoi.
La langue est abaissée dans un flot. Dans un flot de paroles journalistiques.
Disons qu'après les gens savent plus comment parler, quoi, en fait. Ils parlent, ils se reprennent, en fait. Ils se reprennent, ils vous reprennent. Enfin bref, on n'arrête pas de se reprendre. Et c'est que ça, quoi. Mais alors... bon, pour dire ce qui est de la poésie, la lecture, moi je pense que c'est nécessaire, quoi. Après, on peut pas tout faire non plus, quoi. Enfin, tous les écrivains sont pas animateurs culturels non plus. Hein. C'est pas le truc, quoi, à faire.
Alors, j'aimerais qu'on décale un petit peu le sujet.
Ouais.
J'aimerais qu'on parle de la poésie faciale. Mmh. Ce terme qui a été présenté dans la revue Faciale, qui comptait un seul numéro, cette revue que vous avez faite avec Christophe Tarkos, qu'est-ce que c'est la poésie faciale?
C'est très difficile d'en parler. Enfin, je sais pas, il faudrait dire la poésie faciale, c'est Tarkos, la poésie faciale, c'est Nathalie Quintin. Il y avait Olivier Quintin qui avait écrit à l'époque un texte sur Nathalie Quintin, qui avait une façon d'écrire de manière faciale, quoi. C'était à plat sur la page, enfin, il y avait quelque chose qui était dit, qui avait rien de caché, en fait. Et Tholomée le dit très bien aussi, ça. Il en parle très bien de la poésie, qui n'a pas de phrase cachée, qui n'a pas de mots en dessous, qui n'a pas de... Tout est bien là, enfin là, comme un carré, quoi, si vous voulez. C'est pour ça qu'il y avait aussi pas mal de carrés. Je ne sais pas si vous avez vu cette revue.
Les carrés, cette revue, non. Mais les carrés de Christophe Tarkos, effectivement.
Oui, tout à fait.
Donc ce serait une poésie à une face, une poésie sans profondeur.
C'est pas une question de profondeur, c'est une question que... C'est comme une frontalité, comme un poème frontal. C'est comme le mot qu'il écrivait, là, pan, en fait. Hein. Pan, c'est dit comme ça, c'est pas dit pan avec une exclamation, quoi, si vous voulez.
Hein. Est-ce que c'est une posture sans recul face au monde?
C'est une posture de... je parle pour facial, hein. C'est une sorte de visage qui peut dire des choses drôles, mais qui rit pas, en fait. On pourrait dire ça, quoi, en fait. De Christophe, quand on le voyait en performance, c'était un peu ça. C'est une manière de dire les choses. De jouer avec les mots, avec la patte mot, quoi, en fait.
Et si on l'adresse
Oui.
Si on l'adresse à votre travail, cette formule, une posture sans recul face au monde? Est-ce que ça fonctionne?
Ben, ça fonctionne. Moi, je l'ai tout de suite associé avec la poésie de merde, en fait. Hein. Pour moi, Facial, c'était la poésie de merde. C'était.
Alors, entendons-nous, poésie de merde, dans le sens. Dans quel sens? Dans le sens noble du terme?
Ouais, ben, disons que. Oui. Mais c'était. C'était aussi. C'était aussi prendre les paroles qui sont pas forcément les paroles lues dans la poésie, enfin les choses des gens, le langage des gens, les trucs pas clairs, les obsessions, tout ça, et y a un rire aussi à travers ça, quoi, en fait, une drôlerie, mais une drôlerie,
est-ce que ça serait le rire de l'idiot?
Ouais, c'était un peu ça, c'était l'idiot.
Est-ce que l'idiot, ça pourrait être un terme qui pourrait rentrer dedans aussi?
Ah bah carrément, moi j'étais obsédé par ça, hein. c'est certain, quoi. Une manière d'écrire à la manière des idiots, quoi. Enfin, mais à dépasser ça, enfin, aller beaucoup plus loin encore, quoi. Aller plus loin, aller plus grave encore que ça, quoi, en fait. C'est pour ça que j'aimais bien l'obsession des gens dans la parole, quoi. Parce qu'ils disent des choses complètement hallucinantes, et puis... Ils sont fascinés par ce qu'ils disent, par les mots qu'ils emploient, et après ça peut découler vers le fascisme, quoi, quelque part. On peut le voir aussi, ça. C'est vachement dangereux, quoi. C'est une sorte d'attirance comme ça. Alors si ça passe par l'écriture, si ça passe par les arts, c'est très bien, quoi, en fait. Mais si ça sort pas de là, si ça sort pas de ces désirs-là de la langue, et puis dans le parler, et dans la pensée, après ça se diminue, et ça va tout de suite, ça tourne au tragique, quoi.
Bah, très bien, merci beaucoup Charles Penquin de vos réponses.